Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire de cette édition, le président iranien a affirmé qu'il était temps de mettre fin à la guerre avec les États-Unis, Téhéran étant selon lui en position de force face à Washington. La Turquie a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans le cadre d'une enquête sur l'interception de la flottille pour Gaza. Et en France, la vague de chaleur qui a débuté le 28 juillet a officiellement pris fin et égale la plus longue vague jamais enregistrée dans le pays datant de 1983. Dans l'actualité, au Moyen-Orient d'abord, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé qu'il était temps de mettre fin à la guerre avec les États-Unis, Téhéran étant selon lui en position de force face à Washington qui souhaite imposer, je cite, une nouvelle guerre économique. La Turquie a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi qu'un autre citoyen israélien, une annonce du ministre turc de la Justice dans le cadre d'une enquête sur l'interception de la flottille pour Gaza et la détention de militants à bord. Le bureau du Premier ministre israélien a réagi et a qualifié le président turc Recep Tayyip Erdogan de dictateur antisémite, je cite, en affirmant qu'Israël agirait contre les tentatives de la Turquie de déstabiliser la région. On reste au Moyen-Orient. En Cisjordanie, deux Palestiniens ont été tués aujourd'hui, l'un à Jenin dans le nord par des tirs de l'armée israélienne et l'autre dans le sud du territoire par un colon, selon des sources palestiniennes et l'armée. Toujours en Cisjordanie, une poignée de colons israéliens continuent de bloquer l'accès d'un village palestinien, le village de Kosra. Dans ce territoire, les déplacements sont de plus en plus difficiles pour les Palestiniens, mais aussi pour les ONG qui leur viennent en aide, comme l'ONG Première Urgence Internationale. Elsa Sovtik, adjointe à la direction des opérations dont cette ONG nous en parle.
On peut être bloqué des heures entières à des checkpoints, ne pas atteindre nos communautés, les communautés que nous supportons. Et puis surtout, même quand on les atteint, on est nous-mêmes victimes d'attaques des colons sous l'acceptation de l'armée israélienne. Par ailleurs, on a aussi été sous la coupe du désenregistrement par les autorités israéliennes depuis maintenant 9 mois. Donc officiellement, nous sommes autorisés à travailler parce que nous sommes toujours enregistrés auprès de l'autorité palestinienne. Mais les autorités israéliennes nous ont désenregistrés et donc considèrent que nous n'avons pas à faire notre travail.
Le village de Kousra est assiégé par une poignée de colons depuis plusieurs jours. Les habitants palestiniens sont coupés du reste de la Cisjordanie. Est-ce que vous suivez la situation sur place? Est-ce que vous avez un lien avec les habitants?
Oui, bien sûr, on suit la situation sur place. Kousra, c'est un des villages qu'on nous a déjà servi dans la réponse humanitaire ces dernières années. On suit malheureusement aujourd'hui de manière distancielle parce qu'on n'avons pas accès à la zone. C'est important de continuer à parler de Kousra et de peut-être en faire le village symbole, mais c'est vraiment très 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 important de comprendre que c'est la réalité des Palestiniens et des Palestiniennes. Et évidemment, là, c'est très visuel sur Kousra. Mais c'est vraiment le quotidien des Palestiniens. Il faut bien avoir en tête que chaque village palestinien de la Cisjordanie occupée est encerclé par des barrières, des murs ou des checkpoints qui soient tenus par des colons ou par les militaires israéliens et qui empêchent complètement la libre circulation des populations. Et quand on dit libre circulation, il faut vraiment avoir en tête que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir accès à un centre de santé, on ne peut pas avoir accès à un hôpital en urgence, on peut être bloqué à un checkpoint pendant des heures, et on a vu le cas dramatique d'une femme qui a perdu son bébé parce qu'elle est restée trop longtemps dans l'ambulance coincée à un checkpoint. Et donc en fait le siège de Kousra, il est le représentant de tout ce qui se passe tous les jours dans quasiment tous les villages palestiniens.
Elsa Sovtik, adjointe à la direction des opérations auprès de Première Urgence Internationale. Elle sera l'invitée d'Ina Gilles dans l'émission Grand Angle après le flash de 18h. Dans le reste de l'actualité, au Maghreb, des centaines centaines de Tunisiens ont manifesté hier dans la capitale Tunis contre le président Kais Saied. Ils dénoncent des coupures d'électricité et des pénuries d'eau potable. Les précisions avec vous, Inagil.
Oui, Nawal, les manifestants brandissaient des pancartes dénonçant la soif et l'obscurité en référence aux pénuries d'eau potable et aux coupures d'électricité, d'autant plus difficiles à vivre au quotidien que le pays est confronté à des températures très élevées. Une manifestation qui fait déjà réagir l'opposition au pouvoir. Aujourd'hui, le peuple tunisien se trouve humilié, a déclaré l'ancien député Samir Ben Amor. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni liberté, a-t-il ajouté. La contestation n'est pas nouvelle. Le Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques a fait état de centaines de manifestations à travers le pays ces dernières semaines. Des rassemblements comme à Tunis hier, principalement contre les pénuries d'eau potable et les coupures d'électricité, mais aussi contre la répression politique du pouvoir. Car certains de ces manifestants ont également réclamé la libération des prisonniers politiques. Ezzedine Hasghi, figure de longue date de l'opposition de gauche, a déclaré, je cite, « Nous nous levons face à la situation catastrophique dans laquelle se trouve aujourd'hui la Tunisie. Il n'y a plus État, plus d'institution, juste un homme qui ignore tout et qui dirige le pays. » Une référence au président Kais Saied. Depuis le coup de force du président Kais Saied le 25 juillet 2021, par lequel il s'est octroyé les pleins pouvoirs, les ONG locales et internationales déplorent un recul des droits et libertés. Des dizaines d'opposants et militants de la société civile sont aujourd'hui poursuivis en vertu d'un décret présidentiel, un décret qui vise officiellement à lutter contre les fausses informations, mais qui est sujet à une interprétation très large dénoncée par les défenseurs des droits humains. Les récentes années des procès collectifs et de lourdes peines visant des membres de l'opposition en vertu de lois relatives à la lutte contre le terrorisme ou la cybercriminalité ont aussi aggravé la crise de l'état de droit, a dénoncé Amnesty International dans un rapport. Une grave dérive autoritaire dans ce pays, la Tunisie, qui fut pourtant le berceau du printemps arabe en 2011, qui avait soulevé tant d'espoirs de changement démocratique dans la région.
Merci Inès Gilles pour toutes ces précisions. En Algérie maintenant, la police a saisi plus de 10 millions de capsules de précabaline, une substance psychotrope, et plus de 33 kilos de cocaïne et arrêté 25 suspects liés à un réseau international, selon la télévision publique. Dans le reste de l'actualité internationale, le joueur de football argentin Leandro Paredes a été suspendu 10 matchs par la Fédération internationale de football en raison des incidents survenus durant la finale de la Coupe du Monde perdue contre l'Espagne, une annonce de la FIFA. En France, la course à l'élection présidentielle est déjà lancée. Édouard Philippe, candidat Horizon à l'élection, est en visite à Mayotte et il appelle à la reprise en main du contrôle de l'immigration et à la reconstruction et au développement des infrastructures de l'archipel. Je vous laisse écouter Édouard Philippe.
Mayotte, c'est la France. À chaque fois que Mayotte a eu à s'exprimer sur son attachement à la République française, Mayotte a parlé, Mayotte a voté, Mayotte s'est exprimé clairement et ultra majoritairement. Je suis venu ici, dans ce département, qui est un département, un des plus jeunes départements de France, un des plus récents départements de France, un des départements qui est le plus confronté à des difficultés considérables. Nos concitoyens français dans l'Hexagone, en métropole, connaissent souvent peu Mayotte. Parce que c'est loin, parce que on y vient moins souvent que dans d'autres territoires ou départements ultramarins pour des raisons liées au tourisme ou à l'activité économique. Mais Mayotte, c'est la France. Confronté à des difficultés économiques, climatiques, sociales, sécuritaires, considérables. Et je suis venu dire que l'État devait ici se concentrer sur deux priorités. La première, c'est la reprise en main, la reprise du contrôle de l'immigration. La seconde, c'est la reconstruction et le développement des infrastructures indispensables à la vie de nos concitoyens français. Les écoles, la santé, la production et la distribution de l'eau et les infrastructures de développement économique.
Édouard Philippe, candidat Horizon à l'élection présidentielle. Et l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection, Gabriel Attal, a été visé, lui, par deux nouvelles opérations de désinformation liées à l'ingérence russe dans la campagne française. Le chanteur de 67 ans, Patrick Bruel, mis en examen notamment pour des faits de viol et d'agression sexuelle, doit se produire en concert à Chartres le 2 octobre prochain pour ouvrir sa nouvelle tournée. Mais le maire d'hiver droite de la ville, Ladislas Vergne, s'oppose fermement à sa venue. Il était invité chez nos confrères de RTL.
Depuis le début, il n'y a pas eu de contrat qui était passé avec Patrick Bruel. Il y avait une option de réservation. Évidemment, ça, c'était avant les 32 plaintes qui ont été déposées contre lui. Eh bien, là, maintenant, très clairement, on dit non. Hors de question que Patrick Bruel, dans ces conditions, vienne à Chartres. Pour être très clair, il n'y a eu ni contrat signé, ni argent versé. Il n'y a aucun engagement qui a été pris de la part de la ville. Donc, évidemment, il y avait une option qui était laissée à la production de Patrick Bruel, en aucun cas un blanc-seing. Quand on voit le contexte actuel, à titre personnel, moi je préfère largement qu'on attende que la justice décide des responsabilités. Il sera le cas échéant bienvenu après cela, mais pas dans ce contexte-là, très clairement. Là, je souhaite vraiment qu'on ménage une place, une considération à la parole des victimes. Il y a eu 32 plaintes. Je pense que c'est extrêmement important. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc à un moment, il faut raison garder. Et moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun que Patrick Bruel renonce à venir à Chartres. Sinon, effectivement, de toute façon, nous levons l'option et il n'est pas le bienvenu à Chartres dans ce contexte.
Ladislas Vergne, maire de Chartres. Dans un tout autre volet, partiellement ravagé par un incendie historique en juillet, les sentiers de la forêt de Fontainebleau réouvriront au public demain, selon le préfet délégué pour l'égalité des chances. Et enfin, la vague de chaleur débutée le 28 juillet en France a officiellement pris fin et égale avec 23 jours le record de la plus longue vague jamais enregistrée dans le pays qui datait de 1983 selon Météo France. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.